RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La revue suivante, vous allez écouter magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le président supervise le développement du barrage Sukamahi à Bogor. La réponse rapide de l'IDI face aux victimes du tsunami à Banten. Le nombre de victimes du tsunami dans le détroit de la Sonde a augmenté à 430 personnes. Les catastrophes naturelles en face maintiennent l'équilibre humain et naturel. Le ministre de l'Industrie optimiste quant à la croissance de l'industrie manufacturière au cours de l'année politique. Le gouvernement a inauguré un programme de développement des entrepreneurs et des jeunes agriculteurs. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a supervisé un barrage situé dans le village de Sukamahi à Megamendung, le district de Bogor, mercredi. Le président a indiqué qu'une fois terminé, le barrage devrait jouer un rôle dans la réduction des inondations fréquentes qui ont frappé la capitale Jakarta. Le gouvernement, par l'intermédiaire du bureau régional de la rivière de Ciliwung Cisadane, s'efforce de surmonter les inondations à Jakarta en construisant des barrages à Ciawi et à Sukamahi dans le district de Bogor. La construction des deux barrages, qui a commencé en 2017, devrait être achevée en 2019. Les deux barrages devraient réduire les inondations à Jakarta qui proviennent de Bogor. Le barrage de Ciawi a un volume de 6,45 millions de mètres cubes d'eau ou peut accueillir 365 mètres cubes d'eau par seconde, tandis que le barrage de Sukamahi a un volume de 1,68 millions de mètres cubes ou 56 mètres cubes d'eau par seconde. Ces deux barrages ont pour fonction de garantir l'eau à Jakarta. Les deux barrages recevront d'abord l'eau puis seront acheminés vers le barrage de Katulampa. L'Association des médecins indonésiens, IDI, mobilise des neurologues, des orthopédistes et des chirurgiens spécialisés dans le traitement de victimes du tsunami situé au centre de l'hôpital de Berka à Pandeglang. Le directeur de l'hôpital public régional de Berka, Dr. Firman, exprimait sa gratitude pour la réaction rapide de l'Association des médecins indonésiens.
Kalau kita untuk alkes ya maupun alet sudah bisa kita tangani di sini.
Nous pouvons traiter tous les cas ici. Le plus important est la volonté des spécialistes. Un médecin orthopédiste, un chirurgien général et un neurochirurgien doivent être préparés à chaque catastrophe. Nos collègues fournissent rapidement une assistance aux victimes. Tout peut être manipulé, signifie qu'il n'y a rien de trop tard. Dr. Firman a rappelé que les capacités de l'hôpital de Berka à Pandeglang étaient encore suffisantes pour traiter les victimes de tsunami et nécessitaient des équipements intensifs. Soutopo Purwonugroho, responsable du Centre des données d'information et des relations publiques de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, BNPB, a déclaré que jusqu'à mercredi, à 13h, heure locale, les victimes mortes du tsunami dans le détroit de la Sonde avaient atteint 430 personnes. Soutopo Purwonugroho, lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Jakarta, a expliqué qu'un total de 430 personnes sont mortes était encore des chiffres temporaires et pourrait encore augmenter, du fait que l'équipe de recherche et de sauvetage se soit concentrée dans le sud, à savoir le district de Sumur. Il a ajouté que BNPB avait également noté que jusqu'au quatrième jour après le tsunami du détroit de la Sonde, 1495 personnes blessées, 159 personnes disparues et que 21 991 personnes avaient été déplacées à cause du tsunami au samedi soir. Le tsunami a touché 5 districts, à savoir Pandeglang et Serang dans la province de Banten, la résidence de Lampung Sud, Pesawaran et Tanggamus dans la province de Lampung. Le président de l'Association des intellectuels musulmans indonésiens, ICMI, Jimli Asidiki, a déclaré à Jakarta mercredi que les catastrophes naturelles qui ont frappé l'Indonésie devaient être une leçon sur l'importance de maintenir un équilibre entre la nature, les gens et la culture sous la protection de Dieu. L'Indonésie, comme le plus grand pays d'archipel, est située dans l'anneau de feu du monde avec des richesses naturelles abondantes, a également beaucoup de risques de catastrophes naturelles. Selon lui, l'environnement naturel indonésien comme celui-ci doit être reconnaissant en maintenant l'équilibre de la nature. Dans les enseignements religieux, cela devenait rahmatan lil alamin, miséricorde pour l'univers et non seulement pour les êtres humains. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, est optimiste que l'industrie manufacturière peut augmenter dans l'année politique. Certains investisseurs continueront d'investir leur capital car ils voient les conditions politiques et économiques en Indonésie considérées comme stables avant l'année politique. Il a dit dans la communiqué de presse mercredi à Jakarta que l'Indonésie avait des expériences avant et après la réforme. Surtout dans ces 20 ans, l'Indonésie a tenu 4 élections générales et presque tous les 2 ans, des élections régionales sont organisées qui se déroulent bien et de manière démocratique. Pour cette raison, il estime la mise en œuvre des élections législatives et l'élection présidentielle qui seront tenues simultanément le 17 avril 2019 se déroulera de manière sûre et pacifique et peut soutenir l'économie à réaliser le bien-être public. Le gouvernement indonésien a inauguré un programme de développement des entrepreneurs au concept humain Pio en religion a une bonne attitude et capable de faire des affaires, et des jeunes agriculteurs visant à encourager la participation des pensionnats islamiques et des organisations religieuses dans l'effort pour réduire l'écart. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques de la République d'Indonésie, Darmin Nasution, a déclaré dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta mercredi que ce programme était l'application des politiques d'égalité économique et du Congrès économique du peuple par le Conseil des Ulémas d'Indonésie. Cela a été dit par Darmin Nasution lors d'un discours à l'inauguration du programme Centrepreneur et de jeunes agriculteurs à l'internet islamique pemberdayaan umat dans le village de Cibuntu, la résidence de Bogor dans l'ouest de Java. Ce programme fait partie de celui de partenariat économique communautaire pour créer de nouveaux entrepreneurs agricoles dans le contexte de la régénération des agriculteurs et du développement du potentiel des terres non productives, y compris dans les pensionnats islamiques. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire. Et pour le titre, le tsunami de décembre est la journée nationale de préparation aux catastrophes. L'Indonésie est un pays situé dans une ceinture de feu où se déroulent souvent des activités volcanologiques et géologiques. Le phénomène de la volcanologie est caractérisé par de nombreux volcans visibles à la fois sur la surface de la Terre et sur les fonds marins. Cette activité volcanique provoque souvent des catastrophes. Le mont Anak Krakatau dans le détroit de la Sonde entre la province de Banten à Java et la province de Lampung sur l'île de Sumatra qui est actuellement en activité a provoqué une catastrophe. La question est de savoir dans quelle mesure l'état de préparation d'Indonésie répond aux nombreuses activités volcanologiques et géologiques qui ont commencé à se reproduire dans de nombreuses régions d'Indonésie. Le 26 décembre, il y a 14 ans, un grand séisme sous-marin d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter a provoqué une vague de tsunami qui a balayé les zones côtières d'Aceh. Plus de 200 000 personnes sont mortes et des centaines de personnes disparues et ont été détruites dans les villes de la province d'Aceh. Un tsunami à plus petite échelle s'est produit après le séisme de Palu. Maintenant, le tsunami se reproduit à Banten et à Lampung, mais mettons les effets de l'éruption d'Anak Krakatau. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, ne s'attendait pas auparavant à un effet d'éruption sous la forme d'un glissement de terrain sur une falaise qui aurait eu un impact sous la mer, de sorte qu'il n'aurait pas été correctement détecté par le sismographe. Le debout n'est considéré que comme l'effet de la marée montante due à la pleine lune. Mais ce qui est arrivé est un tsunami qui a dévasté Serang, Pandeglang et Sud de Lampung. Relatif aux signes de danger de tsunami, le président Joko Widodo, lors d'une visite dans la zone sinistrée, a déclaré qu'il était nécessaire d'acheter immédiatement de l'équipement sophistiqué de la red précoce du tsunami et de l'installer dans les zones à fort potentiel ou le moteur, pour que cela puisse éviter le nombre de victimes. BMKG a déclaré qu'il était encore possible qu'un tsunami se reproduise sur la côte du détroit de la Sonde, du fait des conditions météorologiques extrêmes et de la fréquence des vagues. Pendant ce temps, Sutopo Purwonugroho, responsable du Centre de données pour l'information et les relations publiques de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, a déclaré que les gouvernements régionaux de Banten et de Lampung avaient mis en place une période d'intervention d'urgence après le tsunami du détroit de la Sonde. La période d'intervention d'urgence a été appliquée différemment entre les deux provinces. Selon Sutopo, pour la région de Pandeglang, Banten, la période d'intervention d'urgence est valable 14 jours, du 22 décembre au 4 janvier. Pour la région de Lampung Sud, la période d'intervention d'urgence dure 7 jours, du 23 au 29 décembre. Cependant, il a souligné que le tsunami du détroit de Sonde n'est pas qualifié de catastrophe nationale car l'administration régionale est en mesure de faire face à la situation. En ce qui concerne plusieurs vagues, les menaces volcaniques et les vulnérabilités géologiques, l'Indonésie devrait disposer de nombreux équipements sophistiqués d'alerte précoce à plusieurs endroits sujets aux catastrophes. L'équipement est important pour que des événements qui se reproduisent dans le détroit de la Sonde puissent être signalés le plus tôt possible pour éviter de grandes victimes. La proposition de décider la Journée nationale de la préparation aux catastrophes le 20 décembre devrait également être appréciée, de sorte qu'elle nous rappelle toujours que l'Indonésie est une région sujette aux catastrophes. Il est temps d'agir après avoir appris de nombreuses catastrophes majeures. C'est Ritor, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 27 décembre 1945, la fondation de la Banque mondiale. La Banque mondiale est une institution financière internationale qui fournit des prêts aux pays en développement pour le programme de fourniture de capital. Le but officiel de la Banque mondiale est la réduction de la pauvreté. La Banque mondiale est différente du groupe de la Banque mondiale, dans lequel la Banque mondiale ne comporte que deux institutions telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement. L'opération de la Banque mondiale est maintenue par des paiements réglementés par les États membres. Les activités actuelles de la Banque mondiale sont concentrées dans les domaines tels que l'éducation, l'agriculture et l'industrie. Elle a été créée le 27 décembre 1945 après la ratification internationale sur l'accord conclu lors de la conférence qui a eu lieu du 1er au 22 juillet 1944 dans la ville de Bretton Woods. Techniquement et structurellement, la Banque mondiale est l'une des agences des Nations Unies, mais fonctionnellement très différente des autres agences des Nations Unies. Le 27 décembre 1977, le coup d'État du deuxième président afghan. Un coup d'État soutenu par l'Union soviétique renversé et exécuté le président afghan Hafizullah Amin et le remplacé par Babrak Karmal, son ennemi politique de la faction rivale. Le 27 décembre 2007, l'assassinat de Benazir Bhutto, la première femme élue à la tête d'un pays musulman, l'ancienne première ministre pakistanaise Benazir Bhutto, est tuée dans un attentat après une réunion électorale à Rawalpindi, près Islamabad, dans le cadre de la campagne électorale au début 2008. Le 1er décembre 1988, Benazir Bhutto devient premier ministre du Pakistan. 20 mois plus tard, il a été renversé par le président du pays soutenu par le militaire Ghulam Isha Khan. Il a utilisé le 8e amendement de dissoudre le Parlement et forcé d'organiser une élection. Bhutto a utilisé le 8e amendement de dissoudre le Parlement et forcé d'organiser une élection. Il est réélu en 1993, mais a été rejeté 3 ans plus tard au milieu de divers scandales de corruption par président Farouk Leggari, qui également utilise les pouvoirs. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici mon Indonésie intitulée « Bali socialise l'interdiction d'utiliser du plastique jetable ». Le gouvernement provincial de Bali socialise l'interdiction d'utiliser des plastiques jetables, conformément au règlement du gouvernement de Bali numéro 97 l'année 2018, concernant la mise au ribout des déchets plastiques jetables publiée le 21 décembre. Dans la socialisation du règlement à Denpasar lundi, 24 décembre, cité par Antara, le gouverneur de Bali, M. Wayan Koster, a expliqué que selon le règlement du gouverneur, 3 matériaux sont fabriqués à partir ou contenant des matériaux de base en plastique dont l'utilisation est interdite, à savoir les sacs en plastique, la stromousse et le pail en plastique. Il a donné 6 mois à chaque producteur, fournisseur, acteur commercial et fournisseur de plastique jetable pour ajuster son activité depuis la promulgation de la réglementation du gouverneur. Selon le gouverneur de Bali, le règlement a été publié dans le but de préserver le caractère sacré, l'harmonie et l'équilibre de l'environnement. En outre, il garantit le respect et la protection du droit de l'environnement sain pour la communauté en raison des mauvais impacts de l'utilisation de plastique jetable et la prévention de la pollution ou des dommages environnementaux causés par l'utilisation de plastique jetable. Selon M. Koster, il est également interdit aux agences gouvernementales, aux entreprises régionales, aux entités privées, aux institutions religieuses, aux villages traditionnels, aux communautés et aussi aux individus d'utiliser du plastique jetable. Avant de mettre en œuvre efficacement la limitation de la production de déchets plastiques jetables, le gouvernement provincial de Bali assurera le coaching et la supervision en formant une équipe. L'équipe est composée d'éléments verticaux, de responsables régionaux, d'universitaires, d'organisations non gouvernementales, d'entrepreneurs, de chefs religieux et de dirigeants communautaires. L'équipe est chargée de l'éducation, de la socialisation et la consultation, ainsi que l'assistance technique et de la formation concernant l'application des dispositions et l'utilisation de matériaux non plastiques. M. Koster encourage les personnes à jouer un rôle actif dans la limitation de la production de déchets plastiques en n'utilisant pas de plastique jetable dans leur vie quotidienne. Chers amis, c'était Molirnesi de la Voix de l'Irnesi à Jakarta.
Le président Joko Widodo a supervisé un barrage situé dans le village de Sukamahi à Megamendung, le district de Bogor, mercredi. Le président a indiqué qu'une fois terminé, le barrage devrait jouer un rôle dans la réduction des inondations fréquentes qui ont frappé la capitale Jakarta. Le gouvernement, par l'intermédiaire du bureau régional de la rivière de Ciliwung Cisadane, s'efforce de surmonter les inondations à Jakarta en construisant des barrages à Ciawi et à Sukamahi dans le district de Bogor. La construction des deux barrages qui a commencé en 2017 devrait être achevée en 2019. Les deux barrages devraient réduire les inondations à Jakarta qui proviennent de Bogor. Le barrage de Ciawi a un volume de 6,45 millions de mètres cubes d'eau ou peut accueillir 365 mètres cubes d'eau par seconde. Tandis que le barrage de Sukamahi a un volume d'1,68 millions de mètres cubes ou 56 mètres cubes d'eau par seconde. Ces deux barrages ont pour fonction de garantir l'eau à Jakarta. Les deux barrages recevront d'abord l'eau puis seront acheminés vers le barrage de Katulampa. L'Association des médecins indonésiens, IDI, mobilise des neurologues, des orthopédistes et des chirurgiens spécialisés dans le traitement de victimes du tsunami situé au centre de l'hôpital de Berka à Pandeglang. Le directeur de l'hôpital public régional de Berka, Dr. Firman, a exprimé sa gratitude pour la réaction rapide de l'Association des médecins indonésiens.
Kalau kita untuk alkes ya maupun alet sudah bisa kita tangani di sini.
Nous pouvons traiter tous les cas ici. Le plus important est la volonté des spécialistes. Un médecin orthopédiste, un chirurgien général et un neurochirurgien doivent être préparés à chaque catastrophe. Nos collègues fournissent rapidement une assistance aux victimes. Tout peut être manipulé, signifie qu'il n'y a rien de trop tard. Dr. Firman a révélé que les capacités de l'hôpital de Berka à Pandeglang étaient encore suffisantes pour traiter les victimes de tsunami et nécessitaient des équipements intensifs. Sutopo Purwonugroho, responsable du Centre des données d'information et des relations publiques de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, BNPB, a déclaré que jusqu'à mercredi, à 13h, heure locale, les victimes mortes du tsunami dans le détroit de la Sonde avaient atteint 430 personnes. Sutopo Purwonugroho, lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Jakarta, a expliqué qu'un total de 430 personnes sont mortes était encore des chiffres temporaires et pourrait encore augmenter, du fait que l'équipe de recherche et de sauvetage se soit concentrée dans le sud, à savoir le district de Sumur. Il a ajouté que BNPB avait également noté que jusqu'au quatrième jour après le tsunami du détroit de la Sonde, 1495 personnes blessées, 159 personnes disparues et que 21 991 personnes avaient été déplacées à cause du tsunami au samedi soir. Le tsunami a touché 5 districts, à savoir Pandeglang et Serang dans la province de Banten, la résidence de Lampung Sud, Pesawaran et Tanggamus dans la province de Lampung. Le président de l'Association des intellectuels musulmans indonésiens, ICMI, Jimli Asidiki, a déclaré à Jakarta mercredi que les catastrophes naturelles qui ont frappé l'Indonésie devaient être une leçon sur l'importance de maintenir un équilibre entre la nature, les gens et la culture sous la protection de Dieu. L'Indonésie, comme le plus grand pays d'archipel, est située dans l'anneau de feu du monde avec des richesses naturelles abondantes, a également beaucoup de risques de catastrophes naturelles. Selon lui, l'environnement naturel indonésien comme celui-ci doit être reconnaissant en maintenant l'équilibre de la nature. Dans les enseignements religieux, cela devenait rahmatan lil alamin, miséricorde pour l'univers et non seulement pour les êtres humains. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, est optimiste que l'industrie manufacturière peut augmenter dans l'année politique. Certains investisseurs continueront d'investir leur capital car ils voient les conditions politiques et économiques en Indonésie considérées comme stables avant l'année politique. Il a dit dans la communiqué de presse mercredi à Jakarta que l'Indonésie avait des expériences avant et après la réforme. Surtout dans ces 20 ans, l'Indonésie a tenu 4 élections générales et presque tous les 2 ans, des élections régionales sont organisées qui se déroulent bien et de manière démocratique. Pour cette raison, il estime la mise en œuvre des élections législatives et l'élection présidentielle qui seront tenues simultanément le 17 avril 2019 se déroulera de manière sûre et pacifique et peut soutenir l'économie à réaliser le bien-être public. Le gouvernement indonésien a inauguré un programme de développement des entrepreneurs au concept humain pio en religion à une bonne attitude et capable de faire des affaires et des jeunes agriculteurs visant à encourager la participation des pensionnats islamiques et des organisations religieuses dans l'effort pour réduire l'écart. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques de la République d'Indonésie, Darmin Nasution, a déclaré dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta mercredi que ce programme était l'application des politiques d'égalité économique et du Congrès économique du peuple par le Conseil des Ulémas d'Indonésie. Cela a été dit par Darmin Nasution lors d'un discours à l'inauguration du programme Centrepreneur et de jeunes agriculteurs à l'internet islamique pemberdayaan umat dans le village de Cibuntu, la résidence de Bogor dans l'ouest de Java. Ce programme fait partie de celui de partenariat économique communautaire pour créer de nouveaux entrepreneurs agricoles dans le contexte de la régénération des agriculteurs et du développement du potentiel des terres non productives, y compris dans les pensionnats islamiques. Serviteurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. chers amis, nous présentons maintenant un magazine culturel intitulé Le village touristique de Malasari. La ville de Bogor, Java Occidental, qui est située à proximité de la capitale Jakarta, fait cette ville est l'une des destinations alternatives des touristes qui voyagent dans la capitale. Elle est la destination touristique naturelle préférée, comme par exemple le village touristique de Malasari, visité par de nombreux touristes qui veulent ressentir la sensation de différentes visites de Jakarta. De Jakarta, le village touristique de Malasari est accessible en 3 heures avec une distance d'environ 100 km. Situé dans le district de Nanggung, Bogor, Java Occidental, ce village offre la beauté naturelle de l'écosystème de la montagne Halimun. De la superficie du village de Malasari, environ 8262 hectares situés dans le parc national de Gunung Halimun Salak, environ 971 hectares ou bien 11,8% sont des plantations de thé de Nirmala Agung et le reste, la plupart, sont les rizières et les jardins communautaires. La plupart fait partie du parc national du Mont Halimun Salak, faisant du village de Malasari une région avec une grande variété d'écosystèmes dans les forêts tropicales humides, divers endémiques, des forêts pluviales de basse altitude existent également dans cette région, comme les léopards, les aigles japonais, les gibbons de Java et les loris lentes. La communauté du village de Malasari utilise encore le système traditionnel dans les pratiques de plantation et dans la vie quotidienne. Dans ce village touristique, vous pourrez faire une randonnée pour admirer la plantation de thé de Nirmala Agung. Cette zone de plantation a été soigneusement formée depuis l'ère néerlandaise par les ancêtres du village. La vaste étendue de feuilles de thé est exotique quand on vient l'après-midi. Pour ceux d'entre vous qui aiment voyager sur les eaux, vous pouvez également sentir la fraîcheur du village de Malasari. Il est entouré par les rivières de Tikaniki et Tidurian. Ce village possède également de nombreuses cascades telles que la cascade de Bajing et la cascade de Pasakan. Il existe des lieux historiques importants et sont devenus des symboles sur l'importance de Malasari dans l'histoire de la civilisation humaine du passé, comme par exemple la salle de Bupati de 1947 ou Pendopo Bupati 1947 qui devient le précurseur du gouvernement de la région de Bogor et plusieurs reliques assez anciennes. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par un voyage dans le village touristique de Malasari, vous pouvez installer une tente dans le camping disponible. Chers amis, c'était magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta, intitulé Le village touristique de Malasari. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, intitulée « L'école de sport pour les handicapés ». Le 20 décembre dernier, l'école spéciale de sport, ou SKO, pour les handicapés a été officiellement inaugurée dans la ville de Solo, Java Central. Monsieur Bayu Rahadian, l'agent de développement des sports traditionnels et des services spéciaux du ministère de la Jeunesse et des Sports, a déclaré « Le lancement du projet de SKO sur les handicapés vise à assurer le suivi de la loi de 2005 sur le développement du sport pour les handicapés et de loi numéro 8 l'année 2016 sur le droit à l'égalité dans le domaine des sports pour les personnes handicapées. » En outre, le ministre des Sports, M. Imam Nahrawi, espère que ce SKO pour les handicapés pourra être un lieu où les maîtres de soi pourront faire la fierté de l'Indonésie sur la scène internationale. L'école spéciale de sport ou SKO est devenue un lieu de naissance pour les athlètes handicapés qui sont considérés sur le plan éducatif, mais leur développement sportif continue de bénéficier d'un soutien leur permettant de représenter plus tard l'Indonésie sur la scène internationale. SKO pour les handicapés est une école secondaire de premier et deuxième cycle qui occupe la fondation Sembada Insan en tant que dortoir. Ils vont dans les écoles publiques tous les jours à Solo. En ce qui concerne les activités sportives, ils s'entraîneront dans plusieurs endroits tels que le stade Manahan, le stade Sriwedari et la piscine Intan Pari Karanganyar. SKO a été lancé à Solo parce que cette ville est une ville adaptée aux personnes handicapées. Et cela a été prouvé par le Comité National Paralympique Indonésien étant basé à Solo. Au cours de cette première année, l'école de sport pour les handicapés a recruté 22 élèves. Il y a 4 sports qui sont ouverts, à savoir l'athlétisme, la natation, le tennis de table et le badminton. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'école de sport pour les handicapés sera construite dans un lieu doté d'installations de formation, de dortoirs et d'écoles. Pour le moment, les élèves de l'école de sport pour les handicapés occupent un logement à la maison Sejahtera de la fondation Insan Sembada. Le lancement de l'école de sport pour les handicapés devrait également être suivi de la création de PPLP. C'est le centre de formation et d'éducation des élèves handicapés dans chaque province et région. Le PPLP a été mis en place pour que les enfants handicapés bénéficient des mêmes installations, de la même attention et des mêmes droits que l'éducation et leurs aspirations. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes et cette fois, nous avons sélectionné des chansons pop indonésiennes chantées par le groupe musical Potret. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée Terbujuk. Bonne écoute. Potret, un groupe musical provenant de Jakarta, était formé en 1995. Ce groupe musical se composant de 5 personnes telles que Melly Guslau comme chanteuse, Nikita Dompas, guitariste, Antahut, bassiste, Joyce Kasiman, claviériste et Aksan Schumann, batterie. En novembre 1995, Potret a lancé le premier album intitulé Potret. La chanson intitulée Terbujuk est une chanson principale dans cet album. Grâce à cette chanson, son album a bien vendu à 50 000 copies. Donc, Potret a placé le premier rang dans l'industrie musicale indonésienne. 2 ans plus tard, ce groupe musical dirigé par Melly Guslau a lancé le nouvel album intitulé Portrait, la deuxième partie. Bon, serviteur, avant de mieux connaître Portrait, écoutons maintenant la chanson suivante de Portrait intitulée Sala. Bonne écoute. Secrétaire, l'album intitulé Portrait, la deuxième partie, a été lancé en 1997 avec son single intitulé Sala. À travers les paroles simples et faciles à écouter, la chanson intitulée Sala attire l'attention des amateurs de la musique pop indonésienne. Après avoir repris le succès à travers la chanson Sala, Portrait a lancé le deuxième single intitulé Macomblang et le troisième single intitulé Bunda. Bon, serviteur, avant de terminer ce programme, voici donc les deux dernières chansons du groupe musical Portrait intitulées Macomblang et Bunda. Bonne écoute et à demain!
Yeah.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Jadi deritanya tangan halus.
C'était des chansons indonésiennes de la voix de l'Indonésie. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.